Gréo Nord.
6h, 7h, la matinale écho de Radio Classique avec Charles Bonner.
Il est 6h30, les titres de l'actualité.
Des drones abattus au-dessus de l'Iran cette nuit. Plusieurs explosions entendues près d'Ispahan. La riposte israélienne a débuté selon les États-Unis. Gabriel Attal promet un sursaut d'autorité pour endiguer la violence des mineurs. Plusieurs mesures entreront en vigueur à l'école dès la rentrée prochaine. Enfin, le début des législatives en Inde. Des élections qui se tiennent dans un contexte économique florissant, mais miné par de profondes inégalités.
Juste après ce journal, un des plus gros cabinets de conseil en première ligne de la révolution artificielle et technologique. Le président de France et Belgique, d'Accenture, Olivier Girard, est avec nous dans Comment j'ai réussi. À 7h moins le quart, l'éloge de la franchise et de la désobéissance dans l'entreprise. C'est la méthode Will, détaillée par Quentin Périnel dans sa chronique au travail. Julie Drouin, trois explosions ont retenti près d'une base iranienne cette nuit.
La province d'Ispahan, visée par des drones 5 jours après l'attaque iranienne sur le sol israélien. Il s'agit, selon de hauts responsables américains, Héloïse Weiss, d'un début de réponse de la part de l'État hébreu.
Il est 4h ce matin quand la province d'Ispahan est réveillée par plusieurs explosions près d'une base aérienne militaire où l'on trouve des installations nucléaires, installations qui n'ont pas été touchées. D'après la presse iranienne, seules les fenêtres de plusieurs bâtiments administratifs de la base ont été brisés. Des drones ont été abattus, mais il n'y a pas eu d'attaque. De missiles, dit l'Iran, qui a activé dans la foulée sa défense aérienne dans plusieurs provinces. Jusqu'à nouvel ordre, les vols commerciaux sont suspendus dans plusieurs villes, dont Téhéran. Au nord d'Israël, cette fois, les sirènes d'alerte viennent aussi d'être activées. Le pays menacé de répondre à l'attaque iranienne le week-end dernier. Il ne confirme pas, en revanche, être à l'origine de ces attaques ce matin.
Merci beaucoup Héloïse Weiss. L'Australie qui appelle ce matin ses ressortissants à quitter Israël et les territoires palestiniens. Des frappes ont également visé le sud de la Syrie cette nuit. L'origine de ces attaques n'est pas encore connue. Hier, à l'ONU, l'Iran mettait en garde Israël contre toute attaque, assurant qu'il lui ferait regretter. Aux Nations Unies, où les États-Unis ont une nouvelle fois opposé leur veto à l'adhésion des Palestiniens à l'ONU, alors qu'un État palestinien est déjà reconnu par la majorité des 193 membres. Une décision immédiatement dénoncé par l'autorité palestinienne.
En France, le Premier ministre lance une concertation sur la violence des mineurs.
Et pour Gabriel Attal, une partie de la solution passe par l'école. Plusieurs mesures ont été annoncées. Des commissions éducatives dès l'école primaire, des points retirés aux examens pour les élèves perturbateurs ou encore le recours à l'internat. Une manière, selon le Premier ministre, de couper rapidement un jeune de ses mauvaises fréquentations. Mais pour Gwenaëlle Surel, secrétaire général adjoint du SNPDEN, proviseur à Nantes, c'est une fausse bonne idée.
L'internat, il n'a pas à se substituer à des problématiques juridiques et clairement de délinquance. Enfin, ce n'est pas l'objet d'un internat. C'est plutôt pour amener les élèves à devenir plutôt studieux et à savoir vivre en collectivité. On n'est pas sur des maisons d'enfermement. Donc, on n'a pas les assistants d'éducation. On n'a pas une fonction répressive. Symboliquement, ça pose un souci de fond quand même.
Propos recueillis par Diane Berger, le Premier ministre a également promis de renforcer la sécurité dans 350 écoles supplémentaires. Gabriel Attal, qui hier soir faisait également le point sur plusieurs mesures du quinquennat à l'occasion de ses 100 jours de bilan. Ainsi, l'engagement d'une baisse d'impôts sera tenu. Quant à l'assurance chômage, la réforme pourrait passer par un durcissement des conditions d'affiliation.
Depuis le lancement de la campagne des élections européennes, la Réunion et Mayotte voient défiler les politiques.
Ils ne sont pas moins de 3 à se rendre sur place cette semaine, le leader du Rassemblement National, Marine Le Pen, la tête de liste socialiste, Raphaël Glucksmann, et la patronne des écologistes, Marine Tondelier. Entre migration, sécurité et écologie, Mayotte notamment concentre les enjeux et donc l'attention des candidats au Parlement européen. Lauriane Toulmont.
C'est un hasard du calendrier. Bienvenue pour le Rassemblement National. Alors que l'opération Place Nette contre la délinquance vient de débuter à Mayotte, Marine Le Pen arrive justement dans la région pour parler sécurité et immigration. C'est la 6e ou 7e fois qu'elle vient y voir les gens. Elle les connaît, elle les aime, assure son entourage. Réunionnaise et Mahorais l'ont donné largement en tête à la dernière présidentielle. Depuis, le Rassemblement National mène ici une campagne permanente, observe la députée Liotte de Mayotte, Estelle Youssoufa. Marine Le Pen est adulée, c'est à chaque fois des bains de foule, reconnaît l'élu qui note que par contraste, les macronistes à Mayotte sont cachés. Moi je ne les appelle pas les marcheurs, mais les rampants. tacle la députée. Surtout que l'annonce de la fin prochaine du droit du sol à Mayotte divise dans la majorité présidentielle. La gauche aussi y est opposée à contre-courant d'une grande partie des Mahorais. Même sur les crises climatiques à répétition que subit l'île, les écologistes sont à peine audibles. Le candidat PS Place Publique, Raphaël Glucksmann, se rend lui seulement à la Réunion. Question de temps, répond son équipe.
Les précisions signées Lauriane Toulmont.
Il est 6h35 en Inde. Le coup d'envoi des élections législatives, près d'1 milliard d'électeurs et électrices sont appelés aux urnes.
Dans les faits, peu de suspense. Le premier ministre nationaliste Narendra Modi, au pouvoir depuis 2014, devrait être reconduit pour un troisième mandat. Au niveau économique, le pays se porte plutôt bien, avec une des croissances les plus élevées au monde, 6,8%. Des chiffres qui ne doivent pas faire oublier des inégalités béantes dans la société indienne, selon Gilles Vernier, chercheur en sciences politiques.
La croissance indienne n'est pas une croissance qui produit de l'emploi. L'Inde, depuis 2016, détruit plus d'emplois qu'elle n'en crée. Le chômage des jeunes est extrêmement élevé et il est même plus élevé parmi les couches des populations qui sont éduquées. Il y a des problèmes structurels liés au modèle économique qui mènent à cette extraordinaire concentration de richesses. Nous avons aujourd'hui en Inde un degré de concentration des richesses qui est supérieur à la Russie. Et donc évidemment, cela crée un effet de contraste important entre des indicateurs macroéconomiques qui semblent indiquer une économie en poupe, mais une réalité économique vécue par les citoyens qui est fondamentalement différente.
Le chercheur Gilles Vernier au micro de Fabien Albert. Le changement climatique va coûter 38 000 milliards de dollars d'ici 2050. C'est le résultat d'une étude menée par des chercheurs de l'université de Potsdam, publiée dans la revue Nature. Presque aucune région ne sera épargnée, mais les pays les moins responsables de ce changement climatique seront les plus durement touchés, Lucie Dupressoir.
Selon l'étude, les pays les moins impliqués dans le changement climatique essuieront des pertes économiques 40% plus fortes que les gros émetteurs. En Asie du Sud et en Afrique, par exemple, le revenu médian baissera de 22% d'ici 2050, contre 11% en Europe et en Amérique du Nord, car ces régions moins contributrices au changement climatique ont aussi moins de ressources pour y faire face. D'après les chercheurs, les pertes affecteront plusieurs secteurs, l'agriculture avec des rendements en baisse, la productivité du travail ou encore la santé avec une multiplication des problèmes sanitaires. Ces calculs pourraient toutefois être sous-estimés. Ils se fondent sur des événements climatiques des 40 dernières années et ne prennent pas en compte les trajectoires à venir.
Des précisions de Lucie Dupressoir. En bref, cette alerte en Turquie après plusieurs séismes dans le centre du pays hier. Pas de victimes, mais les secousses ne sont pas sans rappeler le tremblement de terre meurtrier de février 2023 qui a causé la mort de 56 000 personnes. À Paris, le musée d'Orsay et de l'Orangerie ont un nouveau président, Sylvain Amic, précédemment à la tête des musées de Rouen, également passé par le cabinet de l'ancienne ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak. Le poste était vacant depuis le départ de Christophe Le Ribot qui a pris lui la présidence du château de Versailles en février.
Merci Julie Drouin, c'était le journal de 6h30 à réécouter évidemment sur l'application en podcast. Le débat autour de la rémunération des patrons a marqué la semaine. L'éclairage dans le journal de l'économie, c'est dans 10 minutes. Mais avant ça, un nouvel